Donc merci de venir ici à cette présentation. Donc nous accueillons, enfin on a le grand plaisir d'accueillir Claudine Carlin, qui a participé depuis de très nombreuses années à la fouille d'un site exceptionnel qui est celui de Pinzan. En fait, donc c'est une fouille remarquable qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Donc une fouille initiée par André Leroy-Gourand. Et donc Claudine Carlin, donc avec Michel Julien. Donc on réalisait tout un travail d'étude sur les 50 ans de fouilles archéologiques sur ce site magdalénien. Donc je vais lui laisser la parole et puis on aura l'occasion de rediscuter après des fabuleuses découvertes qui ont été faites lors de ces fouilles.
D'abord bonjour. Donc effectivement je vais vous présenter quelques-uns des résultats que nous avons obtenus à Pinzan. Pinzan est un chantier de fouilles le long de la Seine, sur lequel André Leroy-Gourand, qui fut un des grands préhistoriens de la deuxième moitié du siècle dernier, qui était à la fois ethnologue, linguiste, anthropologue, a travaillé. En essayant de développer une approche de la préhistoire en particulier, de l'archéologie en général et de la préhistoire en particulier, qui était quelque chose qu'il avait longuement mûri à la confrontation de tous ses savoirs. Et Pinzan a été pour lui l'occasion de réaliser ça. Et nous avons, Leroy-Gourand est mort en 86, et nous avons essayé de travailler avec cet héritage, même si, par rapport à cet héritage, nous avons pris, comme vous le verrez, quelques libertés. Tout d'abord, donc, le site de Pinzan a été mis au jour en 1964. Attendez, je vais essayer, j'ai trouvé mon pointeur. Le site de Pinzan a été trouvé en 1964 et vous avez André Leroy-Gourand et Michel Brésillon, l'année de la découverte. Et en bas, vous avez le site avec la Seine qui coule vers Paris dans ce sens-là. Et ce que je vais vous présenter, le site a été en partie détruit par une sablière que vous avez ici. Et ce que je vais vous présenter se situe à peu près dans cette région. Depuis la découverte de Pinzan, qui fut le premier site de plein air trouvé, si on peut dire, au départ, tout le monde disait Pinzan, c'est exceptionnel, c'est des conditions exceptionnelles, on n'en trouvera jamais d'autres comme ça. En fait, on s'est rendu compte que, à partir du moment où on avait trouvé Pinzan et on cherchait des sites de plein air, il y en avait un certain nombre et que toute cette partie de la vallée de la Seine avait été largement occupée. En particulier, les différences qu'ont affichées tous ces sites nous ont aidés à voir la manière dont les Magdaléniens, c'était il y a 13 000 ans, ont exploité leur territoire, puisque si à Pinzan, vous le verrez, il n'y a que du renne, sur d'autres sites, il y a renne et cheval, et parfois plus de cheval que de renne. Ce qui oblige à nuancer, Leroy-Gourand avait appelé le Magdalénien la civilisation du renne. Or, il semble aujourd'hui que la situation soit beaucoup plus nuancée que ça. Pinzan, donc, est installé sur les bords sud de la Seine, vous l'avez ici, au confluent Seine-Yonne, donc dans une vallée assez large, en amont et en aval, un resserrement entre le plateau de la Brie en haut et le plateau du Gâtinais. Aujourd'hui, nous avons plus de 23 niveaux d'occupation que nous connaissons sur des surfaces plus ou moins importantes. Apparemment, l'ensemble correspondrait en gros à un siècle d'occupation. On observe que ces occupations sont regroupées par séquences, ce qui traduirait les aléas du climat Et pour nous, il serait fort possible que quand on a des occupations aussi rapprochées que ça, par exemple, ce soit non seulement le même groupe, mais les mêmes familles qui venaient se réinstaller à cet endroit. Le niveau qui nous intéresse aujourd'hui, que je vous présente, c'est celui-ci, que nous avons appelé le 80. Alors, le matériel sur lequel nous travaillons, c'est ça, c'est-à-dire les vestiges abandonnés par les hommes lorsqu'ils ont quitté le sol qu'ils occupaient. Nous avons à Pincevent du silex en quantité, là vous le voyez facilement en bleu. Nous avons beaucoup de pierres, nous avons de la faune. C'est ça notre matière première. Pour le roi Gouran, la recherche d'une occupation de plein air a été très importante parce qu'auparavant, il fouillait en grotte à Arcy-sur-Cure. Or, à Arcy-sur-Cure, les occupations sont contraintes par les parois de la grotte, ce qui fait que vous avez un palimpseste où les vestiges se mêlent les uns aux autres et qui est relativement difficile à lire. Dans l'idée de le roi Gouran, le fait de pouvoir avoir un site de plein air laissait supposer que les occupations humaines s'étaient largement étendues. C'est un peu la différence entre un studio et une maison. Dans un studio, vous entassez les choses les unes au-dessus des autres, vous effacez des occupations. Si vous avez une table, vous allez y poser vos assiettes au moment du déjeuner, mais elle vous servira aussi sur un journal à éplucher les légumes. Entre les repas, vous y poserez votre ordinateur, donc vous supprimez régulièrement les traces. Alors que si vous avez une maison, vous aurez une cuisine, une salle à manger, des chambres, etc. Et donc pour le roi Gouran, Pincevent était la possibilité d'essayer de mettre en œuvre une lecture qui non seulement rende compte des objets et des activités techniques des hommes, mais aussi ce qui ne se matérialise pas directement dans les objets exhumés, mais dans les rapports que ces objets entretiennent entre eux. Et pour cela, avec Michel Brésillon, ils ont mis au point des méthodes de fouille et d'enregistrement qui étaient pour eux extrêmement importantes dans la mesure où lorsque vous aurez détruit ce sol, vous n'aurez plus que cet enregistrement, ce que vous aurez vu à la fouille, ce que vous aurez écrit, il ne vous restera que ça pour analyser les relations des objets entre eux. Vous aurez les objets, mais c'est la fouille et l'enregistrement qui vous donneront cette organisation de l'espace que le roi Gouran recherchait. Par ailleurs, pour élaborer ces interprétations, André le roi Gouran s'appuyait sur une connaissance encyclopédique, avec laquelle il est clair que nous ne pouvions pas rivaliser. Aussi, dans l'équipe, avons-nous mis en place un programme d'enquête en Sibérie chez des éleveurs-chasseurs de rennes, dans l'idée d'essayer d'élargir notre expérience et, à partir de là, de poser de nouvelles questions à un matériel qui était un matériel qui avait été abandonné par des nomades chasseurs de rennes. Car vous savez, tous les archéologues le savent, on ne répond qu'aux questions, quand on élabore des questions, elles partent de votre propre expérience. Et par exemple, si vous regardez les fouilles préventives, pendant longtemps il n'y a pas eu de préhistoriens et on estimait qu'il n'y avait pas de préhistoire. Et du jour où il y a eu des préhistoriens, on a trouvé de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il faut les questions et le regard changent en fonction de l'expérience qu'on peut avoir. C'est ce que nous avons essayé de faire avec la Sibérie. Donc voilà les six chapitres que nous allons parcourir. Tout d'abord, le niveau 80. Le niveau 80 a été intégralement fouillé sur 4500 mètres carrés. Il représente, il comporte plus d'une vingtaine d'unités centrées sur des foyers de taille et d'importance très différentes. Précisons qu'une partie à l'ouest a été détruite par la sablière et qu'à l'est, pour l'instant, il semble que nous ayons la fin du campement. La fouille de ce niveau a commencé en 1964. Vous voyez que cette région a été fouillée entre 64 et 65 et s'est terminée ici, ça y est, j'ai perdu, en 95. Donc, sur un certain temps. Pendant ce temps-là, la méthode de fouille et d'enregistrement est restée la même, elle s'est affinée, mais ce sont les méthodes d'approche qui ont changé. Et lorsqu'il nous a fallu publier ce campement, nous avons été obligés d'essayer d'uniformiser l'information, d'autant que un ensemble a été publié par André Leroy-Gourhan et deux ensembles ont fait l'objet de thèses sur le lithique, ce qui fait que ces deux ensembles sur lesquels les connaissances étaient assez poussées, alors que les autres unités n'avaient pas été étudiées. Alors, la question, nous savons que ce niveau est un niveau stratigraphique bien identifié, mais pouvait-on penser que ces unités que c'était un campement, c'est-à-dire que tout le monde était là en même temps? Ce sont les raccords entre toutes ces unités, raccords de pierre, de silex, d'os, qui nous ont permis d'affirmer la contemporanéité de tout cet ensemble. C'est bien les hommes qui sont à l'origine de ce campement ont tous été là en même temps. Donc maintenant on sait que c'est un campement. À quel moment de l'année a-t-il été mis en place? On a vu sur cet ensemble que on a identifié près de 80 rennes abattues. Vous voyez ici la part importante du renne par rapport aux autres vestiges d'autres animaux. Seul le lièvre a une présence à peu près le résultat d'une chasse et pas seulement des hasards, des aléas diverses. 80 rennes ou 78 rennes, cela représente un apport de plus de 4 tonnes de viande et de graisse. Et donc, il est évident que les Magdaléniens n'ont pas tout consommé sur place, mais qu'ils en ont sans doute préparé une partie pour l'hiver. Vous avez ici, je vous ai mis un amas qui est lors d'un abattage dans un sauve-cause. Il y a 90 rennes qui ont été abattues. Ce tas représente les carcasses sans la tête et les bois. Vous avez dans les sacs les abats et l'individu vous donne la dimension de l'amas. Ceci pour vous donner une idée de ce que peut représenter la masse de viande que peuvent représenter 80 rennes abattues. À partir de l'analyse des dents, nous avons pu identifier le fait que les rennes ont été abattues à l'automne. En effet, vous avez là le cycle du renne. Pendant l'été, il est réparti dans les pâturages d'été. Au moment de l'automne, quand les premiers froids arrivent, les animaux se regroupent pour une migration vers les pâturages d'hiver. C'est le moment du rut, les mâles sont en tête. Et dès les prémices du beau temps, nouvelle migration en sens inverse vers les pâturages d'été. Et là, ce sont les femelles qui sont en tête parce qu'elles sont gravides et elles veulent atteindre le plus rapidement possible l'endroit où elles vont mettre bas leur petit faon. Donc, c'est bien à l'automne au moment où on abat un renne, surtout quand ils sont jeunes, on peut savoir quel âge il a au mois près. Donc, on a pu identifier que Pincevent a été occupé quelques semaines entre septembre et octobre. Le fait qu'il y ait eu près de 80 rennes abattues laisse supposer que c'était des chasses collectives. En effet, le moment où les rennes sont le plus fragiles, c'est lorsqu'ils traversent les cours d'eau. Or là, vous avez un document qui vous montre un troupeau sauvage, un chasseur avec sa sagaie et les rabatteurs qui ont poussé le troupeau vers le fleuve, ce qui laisse... Justement, en septembre-octobre, les fleuves sont encore en eau. Donc, c'est le moment où les rennes sont le plus gras, parce qu'ils viennent de bien manger pendant tout l'été. C'est le moment où les fleuves en eau permettra de les attraper plus facilement. Donc, toutes les conditions sont rassemblées pour que la chasse soit bonne. Juste un petit rappel pour vous montrer que le renne, c'est un animal qui se consomme en entier. Tout se mange, tout s'utilise dans le renne. Je vous ai mis en transparent ici le transport parce que bien évidemment, nous n'avons aucune preuve de la domestication du renne au Magdalénien. Donc, alors qu'aujourd'hui, le renne est utilisé et largement utilisé dans les transports. Par contre, sa peau va servir à la literie, à faire les toiles de tente, quelle que soit la forme. Généralement, le plus souvent, les poils sont vers l'extérieur. La fourrure est utilisée pour les vêtements, que ce soit poils à l'intérieur ou à l'extérieur. Les os et les bois sont utilisés pour faire des outils. Et en plus, dans le renne, tout se mange, depuis le contenu de l'estomac, la peau qui recouvre, le velours qui recouvre les bois eux-mêmes lorsqu'ils sont tout jeunes, les sabots qui servent à faire des gelées, dans le renne, tout se mange. L'œil, la cervelle, la langue, tout. Donc, rapidement, voyons le matériel que nous avons sur le site de Pincevent. Pour aménager leur campement, les Magdaléniens ont rapporté environ 800 kilos de pierres qui leur ont servi à aménager leur foyer et en particulier pour maîtriser la chaleur et pouvoir la transporter, puisqu'une fois que les pierres sont chaudes, elles peuvent être transportées et nous avons à Pincevent des preuves de cuisson de bouillon. Donc ça veut dire que les pierres ont été déposées dans des liquides. Mais aussi, un certain nombre de pierres servent de mobilier domestique, que ce soit des pierres plates ici qui ont pu servir de table, des gros blocs qui ont pu servir de siège, et sans doute d'autres utilisations que nous avons plus ou moins bien identifiées. Il y a eu aussi un équipement de pierres, d'outils sur galets, extrêmement important. Nous en avons dénombré plus de 280 et il est possible que tous ceux des premières années nous aient échappés. Ce peuvent être des percuteurs, vous les avez en haut, qui ont servi à tailler le silex. Des polissoirs, vous avez ici l'empreinte d'une aiguille qui a été polie. Ça peut être des broyeurs ou des molettes qui ont écrasé les colorants, par exemple, ou de la graisse, ou des lissoirs brunissoirs avec des polis, vous voyez ici très bien, qui ont servi probablement à enduire des peaux de graisse pour les assouplir. Outre les pierres, ils ont aussi apporté 300 kilos de silex. Ils sont arrivés avec un lot de silex d'origine tertiaire bien identifiable. C'était généralement des lames. Il y a deux ou trois seulement nucléus en silex tertiaire. Et ils sont allés ramasser sur les bords de la Seine. Vous avez là un amas de rognons. Le silex dont ils avaient besoin pour préparer leurs outils. Le poids total de silex donc représente 300 kilos. Et les déchets de taille sont à peu près au nombre de 30 000, ce qui n'est pas beaucoup. vu l'étendue du campement et la quantité de d'individus, vous allez voir. Je vous ai mis ici un poste de taille et vous avez le foyer avec le poste, les résidus d'un poste de taille à côté et une omoplate qui a vraisemblablement servi à creuser la cuvette du foyer. Alors, à quoi servait la taille du silex ? La taille du silex, les objectifs de la taille étaient doubles. Il y avait d'une part la fabrication d'outils domestiques sur des lames plus ou moins longues. Généralement, à Pincevent, elles sont petites. C'est pas du tout comme sur le site d'Étiole où on a des lames qui font 30 à 50 cm. Ici, elles font maximum 15 cm. Et elles sont utilisées brutes, comme ici, pour découper la viande. Elles sont transformées en grattoirs pour gratter les peaux. Elles sont transformées en perçoirs pour percer les peaux et d'autres choses. Et elles sont transformées en burins, comme ici, pour travailler les bois de renne. Ça, ce sont les outils domestiques sur lame. Et puis, il y a les lamelles, qui sont des petites lames qui vont servir à armer les sagaies, comme vous avez sur ce dessin. C'est pourquoi on abat un dos de façon à solidifier la partie de la lamelle qui va s'ancrer dans la sagaie en bois de renne. Bien évidemment, il y a le travail du bois de renne. Vous avez ici un bois de renne avec une trace d'enlèvement d'enlèvement de baguettes. Les baguettes sont découpées et sont transformées en sagaies. À Pincevent, il y en a plus d'une vingtaine. En d'autres objets, vraisemblablement, comme ces bois, ces bâtons percés, mais qui sont à Pincevent, sont très très laids. Et puis vous avez, pour vous rappeler, la sagaie en bois de renne avec des lamelles à dos encore emmanchées, qui est une trouvaille qui a été faite à Pincevent dans une des habitations que je vais vous présenter. Et c'est une découverte tout à fait exceptionnelle, mais la nature du lien, enfin du lien qui unit le bois de renne au silex était tellement abîmé qu'il ne nous a pas été possible d'en reconnaître l'origine. Entrons maintenant dans le campement de ces nomades. Notre objectif est pas seulement à partir des objets que je viens de vous présenter, nous avons pu petit à petit reconstituer leurs techniques, ce qu'ils faisaient avec ces objets. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre l'organisation du campement, c'est-à-dire d'aller au-delà de la simple restitution des activités techniques. Alors, on a commencé par utiliser des statistiques avec un plan avec des valeurs logarithmiques. Et vous voyez, ça met bien en évidence des blocs de densité différentes séparés par des espaces plus ou moins vides. Cela conforte la partition que nous avions pressentie, où nous avons un espace que nous avons appelé l'espace central, et trois ensembles de densité variable avec l'ensemble sud, l'ensemble nord et l'ensemble sud-ouest. Alors, si l'on essaie de chercher la spécificité de chacun de ces quatre ensembles, on a d'abord comparé les proportions relatives de vestiges dans chacun de ces quatre ensembles. Vous voyez que l'ensemble central, en haut, rassemble 66% du total des vestiges, ce qui est donc une forte majorité. Par ailleurs, il se distingue par une forte présence des lamelles à dos, donc les armes de chasse, et la faune. On peut donc en conclure que c'est dans les ensembles centrales que se fabriquaient les armes de réparaient les armes de chasse. Si l'on prend les ensembles sud et nord, vous voyez que les trois ensembles montrent une prédominance. Non, attendez. les ensembles sud et nord montrent une forte proportion d'outils sur galets. Les trois ensembles montrent une forte proportion d'outils domestiques, et en particulier l'ensemble sud et nord, d'outils sur galets. L'ensemble nord se distingue aussi de l'ensemble sud par la présence d'objets en matière dure animale, et l'ensemble sud-ouest par une forte présence de déchets lithiques. Donc vous voyez que chacun des ensembles que nous avons identifiés diffère des autres. Par ailleurs, l'ensemble, l'organisation de l'espace les distingue. Dans l'ensemble central, on a des unités centrées autour de foyers avec une dissymétrie dans la répartition de l'espace. D'un côté, une zone vide, de l'autre, une zone dépotoir qui montre qu'on a essayé d'entretenir l'espace de vie autour du foyer. Alors que dans les ensembles techniques, les ensembles sud, nord et sud-ouest, on a une répartition concentrique des vestiges où tout se mêle. Toutes ces observations nous ont conduit à considérer que les quatre ensembles de l'espace central étaient des habitations, des unités de résidence, alors que les autres, les trois autres ensembles, étaient des ateliers. Donc, continuons à avancer dans le campement et regardons maintenant les unités de résidence. Alors, tout d'abord, donc elles sont quatre. Vous en avez deux qui sont espacées l'une de l'autre et deux qui sont jointives. Elles portent le nom du mètre carré dans lequel est installé le foyer, hein, le foyer central. Donc, nous les appelons M89, E74, V105 et T112. Pour commencer, nous allons essayer de regarder qu'est-ce qui les différencie. Est-ce qu'elles sont semblables ou est-ce qu'elles sont différentes? Elles montrent entre elles des différences quantitatives. Vous voyez que V105 et T112, qui étaient donc jointives, donc pas très faciles à séparer, représentent à eux seuls 69% des vestiges. Alors que E74 n'en a qu'un peu plus de 8%. Si on essaie de séparer V105 de T112, en sachant qu'ils ont un espace commun qu'on a aussi isolé, V105 reste largement dominant, alors que T112 devient semblable à M89. Donc vous avez, j'ai régulièrement mis le plan en petit pour que vous vous y retrouviez. Alors, notre idée, c'est que ces différences ne renvoient pas à des temps d'occupation différents, mais à un nombre d'occupants différents. Donc à partir de là, comment calculer le nombre d'occupants? Les plus faciles à identifier sont les tailleurs. Tout d'abord, nous avons remonté les silex, c'est-à-dire qu'en recollant les déchets de taille, nous avons reconstitué les blocs d'origine, et à partir des ressemblances entre tous ces remontages, nous avons identifié le schéma que les Magdaléniens suivaient pour tailler, obtenir leur lame et leur lamelle. Ce schéma que nous avons traduit, comme vous le voyez sur le dessin de Gilles Tosello, par une chaîne opératoire, qui donne le déroulement du travail, est un patrimoine partagé par tout le monde. C'est-à-dire que tous les Magdaléniens savaient que pour tailler le silex, on faisait comme ci, comme ça. Mais nous avons poussé plus loin l'analyse de ces remontages. En effet, à partir des différences maintenant, non plus des ressemblances, mais des différences, nous avons travaillé sur des niveaux de compétences. Nous avons d'une part les tailleurs expérimentés qui adaptent un projet aux blocs qu'ils vont exploiter et qui en maîtrisent parfaitement la réalisation. Nous avons des tailleurs compétents qui construisent des schémas simples, mais subissent malgré tout les aléas du débitage et en particulier des réactions de la matière première. Ils sont constamment obligés de revoir leur projet. Ces deux niveaux font partie, ces deux classes rassemblent des tailleurs qui participent à la production des outils. Enfin, nous avons des tailleurs incompétents qui n'ont pas encore incorporé toutes les règles du débitage. Alors, on peut imaginer que la production d'un tailleur est variable, c'est-à-dire que le jour où il est de mauvaise humeur, il taille beaucoup moins bien qu'un autre jour. De plus, à l'intérieur d'un même niveau de compétence, il n'est pas toujours facile d'identifier si on a affaire à un ou à plusieurs individus. Ceci dit, nous travaillons par unité, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les ensembles de 74, les ensembles de M89, on a pris chacune des quatre résidences, ce qui limite déjà le nombre de blocs sur lesquels nous travaillons. Puis après, on met tout ensemble. Ce qui fait qu'il nous semble que les erreurs qui pourraient intervenir, c'est-à-dire le fait qu'on attribue à ce niveau des séquences qui en réalité relèveraient d'un autre niveau, c'est aux marges. Et ça nous permet d'émettre quelques hypothèses. En particulier, pouvons-nous voir dans les débitages malhabiles les œuvres d'apprentis ? Rappelons que la taille du silex est absolument nécessaire à la vie des Magdaléniens, à la vie des nomades préhistoriques d'ailleurs. Que cette taille du silex se passe au vu et au su de tout, et que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend quand on est un adulte. On l'apprend dès le plus jeune âge. C'est pourquoi on vous a mis sur cette image, sur cet écran, l'apprentissage des jeunes garçons en Sibérie, où vous avez tout d'abord l'observation. Ce jeune garçon observe ce qui se passe dans le monde des adultes, puisqu'il s'agit d'un vétérinaire et de son père qui soigne les rennes du troupeau. Dès le plus jeune âge, ce jeune garçon n'a pas 2 ans. Et il commence déjà à jouer avec un lasso et à essayer de faire des nœuds et à défaire des nœuds. Et puis quand ils sont un peu plus grands, il y a les jeux d'enfants. Vous voyez là l'apprentissage du lancer de lasso pour attraper de jeunes rennes. Et là, le jeune renne, en l'occurrence, est un bois de renne posé sur la tête d'un gamin. Et puis, vous avez la participation, sous la présence du père, aux activités ici du dépeçage. La petite fille a 4 ans et le garçon a 6 ans. Et ils sont en train d'aider leur père à dépecer un renne. On peut donc imaginer que pour la taille du silex, c'était la même chose. D'autant que nous avons mis en évidence à Pincevent une leçon. Dans un coin isolé, vous l'avez ici, on a, dans un premier moment, donc on a une concentration de silex que nous avons décomposée grâce à une microstratigraphie, et nous avons pu voir que dans un premier temps, on peut lire sur les blocs la faiblesse du savoir-faire, vous les avez ici, mais aussi en raison de l'éparpillement des éclats, une difficulté à trouver une position pour travailler. Je vous ai mis, là vous avez les genoux qui sont très légèrement dessinés. Un tailleur expérimenté interrompt l'exercice et montre sur un bloc qu'il prend dans le tas qu'avait rassemblé l'apprenti, montre, ici c'est le même bloc vu sur plusieurs faces, montre comment organiser un volume, qui est un concept abstrait. Vous pouvez voir que si vous prenez un caillou et que vous tapez, ça se casse. Par contre, savoir qu'il faut organiser dans sa tête le volume avant, en même temps qu'on travaille, ça c'est un concept abstrait et c'est ce que l'adulte a essayé de montrer. En même temps, il lui a montré comment se positionner, puisque vous pouvez voir qu'il l'a poussé et il a fait tomber son travail, qui tient quasiment dans le creux d'une main. Et dans la phase suivante, on voit que le tailleur a compris un certain nombre de choses, qu'il a fait des progrès. Vraisemblablement, il travaille sous la direction du maître parce que le saut qualitatif est assez important. Et en particulier, il travaille aussi de manière beaucoup plus concentrée. Donc, il a aussi appris à s'asseoir pour travailler. Donc, Nous avons, à partir de là, essayé de séparer les séquences productives des séquences non productives dans la mesure où elles n'ont pas du tout le même objectif. Les séquences en orange sont destinées à fabriquer des outils, les séquences en bleu, en blanc sont destinées à l'apprentissage. Sur les 233 séquences de taille réalisées dans les résidences, 77 sont l'œuvre de tailleurs, vous l'avez ici, 77 sont l'œuvre de tailleurs peu ou pas compétents, ce qui représente grosso modo un tiers de l'ensemble. Nous pouvons en déduire que les jeunes, adolescents, enfants, devaient être assez nombreux dans le campement, même si se mêlent dans notre évaluation quelques séquences faites taillées par des adultes. Alors, l'élimination des séquences non productives nous donne un ensemble homogène, ce qui est l'ensemble en orange. Dans l'imaginaire collectif, la taille est l'affaire des hommes. Alors, nous, dans la mesure où les très bons débitages sont ceux qui vont fabriquer les lamellados, qui vont armer les sagaies, donc c'est la fabrication des armes de chasse, nous pensons qu'effectivement les très bons tailleurs étaient des hommes. Par contre, dans la mesure où dans le débitage domestique, nous pensons qu'on peut y voir aussi bien des hommes que des femmes, dans la mesure où les femmes devaient être capables de se fabriquer les outils dont elles avaient besoin pour travailler. Ainsi, à partir des niveaux de compétences, nous avons essayé d'évaluer le nombre minimal de tailleurs par habitation. Vous voyez que vous en avez 4 en E74, dont un expérimenté, un compétent, 2 enfants, un adulte et un adolescent et un très jeune enfant. 27 M89, c'est pareil. Vous avez un tailleur expérimenté, 2 tailleurs compétents, 2 jeunes tailleurs, et en T112 et V105, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailleurs, et vous avez un certain nombre de jeunes. À cela, il faut ajouter des tailleurs qui n'ont pas... il faut ajouter des individus qui n'ont pas participé à la taille. Alors, peut-être que c'est ça marche. Vous m'entendez? Non, c'est moyen. Bon, alors je garde. À cela, il faut ajouter des tailleurs qui n'ont pas participé à la taille, mais qui ont participé à la vie du campement, qui ont peut-être été des rabatteurs. Et donc, du coup, nous arrivons à peu près à un total d'une trentaine de personnes, sans compter les nourrissons. Entrons maintenant dans l'habitation, dans les habitations elles-mêmes. Alors, on va commencer par M89, qui est isolé et qui est assez facile à identifier. Par rapport au foyer domestique, qui est entouré de son aire d'activité avec de l'ocre, on a la répartition dissymétrique que j'évoquais tout à l'heure, avec la zone vide et le grand dépotoir, le dépotoir, le tailleur, et le grand dépotoir. Vous l'avez sur l'image en bas. Si l'on regarde les postes de taille, les tailleurs productifs se sont installés sur la bordure sud, sud-ouest du foyer, poste marqué par une grande dalle de granit, et ils ont nettoyé ce poste en évacuant leurs déchets à la volée dans cette direction et dans le grand dépotoir. Le petit poste de taille, la leçon de taille, est ici. Ils ont également, les tailleurs productifs, ont également travaillé de manière occasionnelle au nord du foyer, alors que là, c'est manifestement un poste qui est installé au départ et qui a servi pendant toute l'occupation. Alors, la proximité du poste de taille du foyer vient sans doute du fait que dans la mesure où c'est là qu'on fabrique les lamelles à dos pour armer les sagaies, c'est aussi l'endroit, enfin, on a aussi besoin de chaleur pour ramollir le lien qui va unir les sagaies en bois de renne aux lamelles à dos. Et donc, le tailleur s'installait à proximité du foyer dans son habitation. Les lamelles à dos standardisées, vous le voyez ici, sont effectivement essentiellement au poste principal près du foyer, et un gros plan de la fameuse lamelle à dos, la fameuse sagaie avec son armature de barbelure trouvée dans cette habitation. Les outils domestiques, quant à eux, sont largement répartis tout autour du foyer. Vous voyez, il y en a à peu près partout. Vous en avez particulièrement ici, mais il y en a aussi un peu partout. Alors, au sud, du foyer, on a une zone de travail du bois. Vous avez ici un bois de renne avec, dans une zone particulièrement ocrée. Vous avez l'emplacement d'un billot, sans doute en bois, marqué par les lames qui l'ont entouré, qui ont été utilisées pour travailler sur ce billot et qui sont tombées sur place. Et puis vous avez des arcs de cercle ici. Vous en avez un autre ici. Hop, un autre ici, etc. Qui généralement sont limite des zones vides. Nous avons proposé que ces cordons délimitent l'emplacement de tapis de sol en peau, vous les avez en gris clair ici, qui étaient laissés à demeure et que l'on nettoyait en repoussant les déchets vers l'extérieur. Ces tapis permettaient d'isoler du sol les matières sur lesquelles on travaillait. Et on les nettoyait régulièrement en repoussant les déchets vers le bord, ce qui fait que vous avez cet arc de cercle, ces vestiges en arc qu'on trouve qui marquent sans doute les bords de ces tapis. Notez aussi que ces doubles tapis laissaient un passage vers le dépotoir. Regardons maintenant l'unité E74, celle qui était le plus au sud. Alors, elle est tout à fait semblable à M89, simplement elle est légèrement orientée de façon différente. Elle est plus orientée nord-est que sa voisine, mais vous avez la même répartition dissymétrique avec la zone vide et le dépotoir de ce côté-là. Là encore, les outils domestiques sont largement répartis autour du foyer. Et on note aussi un grand nombre de dalles et de blocs qui sont la spécificité de cette unité et que vous voyez sur la photo, qui souvent sont, il y a des dalles ocrées ici, ici, tout ça sont des dalles, alors que d'autre côté, vous avez plutôt des blocs. Le poste de taille principal est installé au sud, et alors que dans M89, nous avons identifié une séparation entre le poste de taille principal et les postes occasionnels qui étaient placés de l'autre côté du foyer, et qui pour nous pouvait correspondre à la présence d'une femme, parce que c'était le côté, dans M89, c'était le côté d'accès au feu. C'était manifestement le côté qui permettait d'entretenir les combustions, et alors que ici les tailleurs, il n'y a pas de poste dans cette région, et on a l'impression que l'homme et le tailleur compétent et le tailleur expérimenté ont travaillé ensemble au même endroit, donc comme s'il n'y avait pas eu besoin de séparer un espace masculin d'un espace féminin. Et donc là encore, on a ces espaces vides avec des arcs, des espèces de vestiges en arc de cercle qui délimitent deux zones pour lesquelles nous proposons de voir là encore des tapis avec là encore le passage vers le dépotoir. Alors, plus compliqué, et l'organisation de V105 et T112 en raison de leur proximité et de la densité du matériel. Vous avez donc le foyer V105 avec, pour Hélène, le petit sol de gravier, hein, qui est le seul endroit où il y a eu un aménagement du sol, et le foyer T112 que vous avez ici. Si l'on regarde que le silex, on observe que c'est entièrement différent, l'organisation est tout à fait différente, et on a une très grosse concentration, un arc de cercle au sud, et une espèce de coulée entre les deux habitations. André Leroy-Gourhan avait interprété ces concentrations comme des rejets. Quand on regarde de près la présence des esquilles de silex, on constate qu'en définitive, c'est non seulement des rejets, mais aussi des postes de taille qui s'étalent largement sur cette coulée de silex, ainsi qu'en haut et dans l'arc en bas. Si l'on considère les postes principaux près des foyers, le poste de V105 est normalement placé à l'ouest et il a été largement nettoyé, alors que le poste de T112 est placé à l'est et lui n'a pas été nettoyé, tous les vestiges sont restés en place. Les lamelles à dos obéissent au schéma habituel, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement dans les postes de taille aux abords des foyers. Par contre, pour les outils domestiques, on observe une différence. V105 obéit au modèle classique de répartition des outils domestiques largement autour du foyer, alors qu'en T112, ils sont répartis dans la moitié ouest de la zone d'activité et on en trouve très peu dans la zone est du foyer. Leroy-Gourhan avait interprété dans la publication de la section 36, il avait imaginé que cette coulée de silex avait été induite par la présence de l'arrière de la tente de T112, ce qui expliquait la zone vide ici. Nous proposons une autre hypothèse. Je reviens sur celle-là. Non, ça va, c'est pas grave. Alors, ce qui veut dire que les tailleurs de T112 qui sont à l'est auraient eu le nez dans leur tente. Puisque, le fait que ces tailleurs se soient installés en vis-à-vis laisse supposer qu'il n'y avait pas d'espace entre eux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir ce qui se passait. C'est pourquoi nous avons, là encore, proposé la présence... Attendez, je crois que j'ai sauté une image. Mais une fois qu'on a... La difficulté, c'est d'expliquer, si on ne peut pas mettre de tente ici, comment expliquer ce couloir de silex? Si l'on regardez l'ocre, et vous voyez que cette languette d'ocre, ici, entoure une zone vide et qu'on a à peu près la même chose dans cette région. C'est pourquoi nous avons, là encore, proposé la présence de tapis qui seraient restés à demeure et expliqueraient l'absence d'ocre dans cette région. Ces tapis auraient servi aux deux unités dans la mesure où, d'après ce qu'on a pu voir, le tapis était quelque chose d'habituel dans la manière d'organiser l'espace, en tout cas des Magdaléniennes Pincevent. Or, on imagine donc que les deux unités ont profité de ces tapis et c'est pourquoi les vestiges lithiques ne sont pas venus dans cette zone et que par ailleurs, les outils domestiques se sont répartis plutôt de ce côté-là. Vous le voyez là, les outils domestiques avec la zone d'ocre et tout ça via ces deux espaces manifestement sont restés relativement protégés. Alors, essayons maintenant. On a vu à peu près à en espace comment ça se passait. Essayons maintenant d'imaginer comment ça se passe en hauteur. Alors, tout d'abord, le plan d'un abri. Au départ, le roi Gouran avait imaginé un abri et le foyer était placé à l'entrée. Alors, je peux vous dire que ça, c'est invivable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas sortir. Or, manifestement, les foyers ont été des centres d'activité. Donc, on a très vite abandonné ce schéma. Et le roi Gouran a lui-même proposé de reculer le fond de la tente et d'avoir sur le bord des parois qui pouvaient plus ou moins se baisser. Dans la dernière occupation magdalénienne de Pincevent, nous avons une habitation d'hiver, puisque nous savons que dans le 4-0, les Magdaléniens ont occupé pendant tout l'hiver. Nous avons une habitation circulaire de 5 mètres à peu près de diamètre, et donc qui était fermée, et donc nous avons pris un arc de cercle et nous l'avons reporté à l'arrière de l'espace vide pour les espaces de belle saison. Et du coup, ce que nous proposons, attendez, non, c'est ça. Et alors, quand on applique cet abri, la trace de cet abri, parce que comme c'était à la belle saison, c'est extrêmement léger. Il n'y a pas de rond de pierre, il n'y a pas de trou de calage de poteau. En Sibérie, on voit très bien que pour tenir une tente, vous n'avez pas besoin de pierre ou de n'importe quoi. Il suffit que les piquets de la tente soient secs et elles supportent tout à fait le poids de la couverture de tente. Donc, vous constatez que trois unités obéissent à ce schéma, E74, M89 et V105. Mais vous avez vu qu'on ne pouvait pas placer T112 de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas placer T112 ici. On ne peut pas non plus la placer à l'est, en vis-à-vis de V105, parce qu'ici c'est une zone de boucherie, de travail de la viande. Donc, il faut chercher ailleurs. Nous proposons que le petit foyer G121, qui est entouré d'un certain nombre de vestiges, d'outils domestiques, de vestiges osseux, de quelques dalles à l'entrée, pourrait être un foyer de confort à l'entrée de l'abri de la famille T112, qui aurait séparé son espace de travail, ici, de son espace à dormir, disons, ou de vie, ici. Vous l'avez là en agrandi. Du coup, à partir de cette idée qu'on pouvait décaler l'abri par rapport au foyer, on a trouvé une autre possibilité ici, mais qui est orientée pareil que la majorité, et qui, elle, serait plus une succursale de V105 et non pas un abri principal. Alors que là, vous avez l'abri principal de la famille T112. Donc, une fois qu'on a placé les abris, est-ce qu'il est possible d'imaginer ce qui se passe au-dessus? Alors, pour André Leroy Gouran, la reconstitution des superstructures est certainement l'un des pièges les plus alléchants de nos sciences. Et à Pincevent, en 1976, on avait pour un film restitué une tente en forme de tipi, dont vous avez là un petit dessin. Et ce qui n'était qu'une hypothèse nous a complètement échappé et on le retrouve dans de nombreux livres d'histoire alors que c'était vraiment une hypothèse parmi d'autres. En essayant de regarder des exemples ethnographiques, on voit la tente, le tchoum, ou la tente forme tipi, ici au Taïmyr. Et puis on a la forme yaranga de l'est de la Sibérie, qui est un mur. Vous avez un mur avec des trépieds sur lequel repose une voûte ou des arceaux enfoncés dans le sol. Tout d'abord, nous avons éliminé l'hypothèse de hutte en branchage parce que la végétation, manifestement, ne le permettait pas. Or, ils avaient sous la main les rennes et donc on peut imaginer qu'ils ont utilisé les peaux de rennes pour faire leur toile de tente. Nous avons préféré, alors c'est vraiment, c'est une hypothèse là encore, nous avons préféré la forme Yaranga parce que la forme Tipi appelle un certain nombre de piquets, il en faut plus de 25 pour avoir quelque chose d'à peu près habitable. Or, il faut que ce soit des perches sèches. Or, la végétation, ça supposait à ce moment-là que les Magdalénains aillent très loin chercher leurs perches, qu'ils se transportent constamment avec leurs au moins 25 perches, si ce n'est plus. Et ces perches doivent avoir au moins 5 mètres de long pour que ce soit habitable. Donc, on a préféré supposer une forme en Yaranga, mais en sachant tout à fait que c'est, là encore, complètement hypothétique. Par contre, ce que nous proposons, dans la mesure où les Magdaléniens sont capables de faire une tente fermée de près de 5 mètres pour l'hiver, nous supposons que pendant la belle saison, ils ne prenaient qu'une partie de la structure. Alors, il est possible qu'ils aient deux habitations complètement différentes. Mais la solution qui nous paraît la plus économe, c'est d'imaginer que la couverture de la tente d'hiver était en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, dans les Yarangas sibériennes, elle est en deux morceaux. Et l'été, on n'utilise qu'une partie et le reste, on le laisse en attente et on viendra le rechercher au moment de l'hiver. Ce qui suppose aussi moins de piquets, tout est beaucoup plus facile. En effet, je vous ai mis sur cet écran, voilà une tente d'aujourd'hui, des tentes rectangulaires inspirées des modèles occidentaux, qui n'est pas une très grande tente. Et voilà ce que représente la tente en pot d'un seul tenant plié. Vous voyez bien que ce n'est pas évident de transporter une masse aussi importante parce que c'est vraiment lourd. Regardons maintenant rapidement les ensembles périphériques. Nous savons effectivement que les habitants de ces quatre unités, qui représentent donc la trentaine de personnes que j'ai évoquées au début, c'est la totalité du campement que nous connaissons. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter maintenant est fait par les mêmes individus que ceux qui ont occupé les tentes. Parce que ce ne sont pas des habitations, ce sont vraiment des ateliers. Et les nombreuses liaisons qu'il y a entre les habitations et ces ensembles périphériques montrent que ces ateliers sont l'œuvre des habitants des quatre habitations. Regardons d'abord l'ensemble sud. Alors, c'est une succession de petites unités, il y en a six au moins, au périmètre bien identifié et à la fonction technique clairement affichée. Alors, ces installations à l'écart peuvent être expliquées soit par un besoin d'espace, parce qu'on ne pouvait pas encombrer l'espace domestique, soit, et ça me paraît une des raisons essentielles, c'est la nécessité d'adapter aux activités techniques qui allaient se dérouler l'usage de la chaleur par des manipulations dans les structures de combustion. Il semble qu'on ne pouvait pas manipuler le foyer domestique parce que c'est, alors pour des raisons qui sont à la fois normales, c'est-à-dire que c'est là où tout le monde vit et que chacun ne va pas commencer à faire n'importe quoi dans ce foyer, mais surtout aussi vraisemblablement des fonctions symboliques. Le foyer, encore aujourd'hui dans toute la Sibérie, c'est vraiment le symbole de l'unité sociale, c'est-à-dire que le foyer qui est au centre de l'habitation est l'objet de beaucoup de soins, dès la préparation, dès le choix des pierres qui vont le constituer, dès l'allumage, tout ça, c'est plein de rites pour faire que la maison soit mise, que la vie dans la maison soit sous de bons auspices. Alors que là, on est à l'extérieur et donc on peut manipuler les combustions comme on l'entend. Alors on a aussi bien des organisations particulières, des extensions de braise, vous en avez une ici. Vous avez ici une extension de braise avec deux cuvettes, la principale et deux petites cuvettes, et vous avez même simplement des brandons à même le sol. Donc là, on faisait de la chaleur en fonction du travail qu'on avait à faire. D'après les liaisons avec les résidences, il semble que cette unité soit la première installée, c'est autour d'elle que les autres sont venus se positionner. Elle a été réoccupée à plusieurs, elle a été en activité à plusieurs moments. Un tailleur qui a commencé à travailler là a ensuite été terminé ses grandes lames dans cet endroit. Ici, des femmes qui ont commencé à travailler en G121 sont ensuite venues dans ce petit foyer où il y a énormément de galets, de petits polissoirs, sont venues travailler, enduire des pots de graisse et de colorants. Ici, il y a eu une fabrication d'armes de chasse. Un peu à l'écart, on a une unité avec un surnombre de grattoirs qui ont été à de nombreuses reprises réaffûtés. Et on a proposé que la mise en distance résultait de la nécessité d'étaler les peaux de rennes et de les clouer au sol avec des piquets pour pas qu'elles rétrécissent en séchant, qu'elles se recroquevillent en séchant. Et tout autour, vous avez des unités où la maladresse des débitages laisse supposer qu'on a affaire à de jeunes individus qui se sont tantôt essayés à la taille, comme ici, ou ont joué, comme ici, puisqu'on a même un objet qu'on a proposé comme une poupée. Et ils ont circulé, manifestement, les enfants circulaient d'un foyer à l'autre. Si l'on regarde l'ensemble nord, c'est complètement différent. On a un ensemble dans lequel il est très difficile d'isoler les unités les unes des autres. Il semble que la première installée soit R126 que vous avez ici. Et le tailleur s'est installé à l'ouest, normalement en position normale. Alors que les tailleurs de V108, de V128 et de S130, eux se sont installés de manière à être en vis-à-vis. Et ce trio délimite un espace qui a été largement occupé et travaillé. Cette unité, cet atelier se serait installé a posteriori. Là encore, on a des grosses manipulations de foyers. Celui-là est un foyer avec pierre, celui-là est un foyer quasiment plat, et celui-là est un foyer avec des extensions importantes. C'est un ensemble dans lequel il y a une très forte proportion de bois de renne, de travail de bois de renne. On a un certain nombre de sagaies qui ont été trouvés sur place. Par ailleurs, on a vraisemblablement une fabrication de col de poisson. On a des espèces de petits résidus de poissons qui ont été identifiés comme non comestibles, tellement ils sont petits. Et on suppose qu'ils ont pu cuire dans une cuvette. Vous voyez cette toute petite cuvette à côté du foyer R126 et que cette colle devait être utilisée dans la fabrication des sagaies. Par ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure ces trois foyers délimitaient un espace commun dans lequel on a beaucoup de ces fragments de silex complètement mâchonnés sur les bords. Vous avez ici et ici. Et on suppose qu'ils ont servi à préparer les hampes en bois végétal des sagaies. Et vous voyez ici l'empreinte vraisemblable d'une hampe qui a été redressée à la chaleur. Cet ensemble, qui est donc placé à proximité du camp, à proximité de la Seine, qui est juste à côté, devait servir, était un lieu de fabrication des armes de chasse à partir des lamelles qui, elles, étaient plutôt fabriquées dans les habitations. Mais là, c'est l'ensemble, c'est les hampes, c'est les sagaies, la pointe de sagaie en bois de renne qui ont été préparées dans cet atelier. Un rapide coup d'œil sur l'atelier sud-ouest, juste pour dire qu'il est essentiellement destiné, enfin, on y trouve essentiellement du débitage, il n'y a à peu près pas de faune, et si de nombreuses liaisons montrent qu'il est bien lié à l'ensemble du campement, par contre, il pourrait être la dépendance d'une unité qui a disparu juste à proximité dans la sablière. Enfin, à partir de tout ça, est-ce qu'on peut essayer d'avancer quelques hypothèses quant à l'organisation sociale du groupe ? Alors, tout d'abord,
je continue.
Alors, on termine rapidement. Là, vous avez l'ensemble des vestiges. Vous voyez que les lamelles à dos sont à peu près pareilles en V105 et en E74. Par contre, il y en a beaucoup en M89 par rapport à la proportion globale des vestiges. Et il y en a moins en T112. Si l'on prend les outils domestiques, c'est l'inverse. T112 est nettement plus fourni en outils domestiques que M89. Si l'on prend les rennes, on constate que, alors que il y a, en M89, on a à peu près la même proportion, alors qu'il y en a toujours un peu plus dans les autres habitations. Et cette même proportion est en réalité moindre, parce qu'il faut éliminer les fans. Il y a six jeunes fans dans l'habitation M89, qui, elles, le fan n'était pas, les animaux adultes étaient partagés, alors que les fans n'étaient pas partagés parce qu'ils ne devaient pas être acquis de la même façon. Donc, l'habitation M89 affiche un manque de, par rapport à aux lamelles à dos fabriquées, affiche un manque de vestiges de rennes. Si on compare, pour essayer de comprendre, on va comparer les rennes, les restes de rennes, par rapport aux lamelles à dos, aux armes de chasse et aux pointes en bois de renne. On constate qu'en V105, c'est semblable. En E74, on laisse de côté, il n'y a pas de travail de bois de renne. Par contre, vous constatez qu'il y a une position inversée de M89 et T112, avec un très grand nombre d'armes de chasse en M89 et peu de faune, et l'inverse, beaucoup de faune et moins de préparation d'armes de chasse. Alors, c'est confirmé par le tableau du bas, je passe. Par ailleurs, si on prend les relations de ces familles entre elles, on constate qu'il existe deux groupes. Là, on a des vraies relations extrêmement importantes de circulation entre les deux. On a des relations un peu semblables entre ces deux-là, même malgré la distance. Et ce qui circule, c'est essentiellement du silex. Et la nature du silex qui circule, c'est vraiment des déchets. Il y a des lames, mais il y a aussi vraiment du n'importe quoi. Montre qu'il y a un va-et-vient entre ces deux unités. Si l'on regarde M89 et V105-T112, on constate qu'il y a des relations de bon voisinage, en particulier avec le silex. Mais surtout, M89 a donné à V105-T112 deux parties de tête. Ils ont donné la partie mandibule avec la langue et ils ont gardé la partie maxillaire avec la cervelle. Et c'est la même chose pour E74 qui a de la même façon, là il n'y a rien d'autre que ça, qui a donné deux maxillaires, enfin qui a gardé les maxillaires et donné les mandibules à E74. Donc, il y a manifestement, on a deux familles différentes et on constate qu'il y a de la part de M89 et E74 un mouvement vers des dons de rennes, des morceaux de rennes à la famille T112. On constate que cet ensemble-là est beaucoup plus important que cet ensemble-là. Alors, j'essaie d'aller vite. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une allégeance à un individu qui serait l'individu T112, l'homme principal de la famille T112, et que la famille M89 et la famille E74 aient fait allégeance en donnant sur leur part, la part de gibier qui leur revenait, une partie à T112. Alors, on peut imaginer que le chasseur de T112 était probablement le plus vieux, peut-être le plus expérimenté, et que c'est lui qui a essayé d'organiser, c'est lui qui était responsable. Quand on regarde la position de V105 qui était ouverte à l'est et en relation avec lui, on voit que T112 plutôt est installé de manière à avoir à séparer son espace de vie de son espace de travail, que son espace de vie lui permet de faire face au fleuve et donc de surveiller les mouvements du troupeau, et que son espace de travail le met de telle façon qu'il regarde, il a devant lui toute l'enfilade des tentes et des différentes ouvertures, des différentes aires de vie des trois autres unités de résidence. Et cette hypothèse pourrait être confirmée par la présence. Vous avez ici l'abri de la famille T112, hein, donc face au fleuve, et juste derrière, il y a une unité qui est complètement différente des autres, qui est placée, là encore, à l'inverse de l'habitude, et comme T112, avec une zone vide à l'ouest et la zone de travail à l'est. Le poste est installé à l'est comme le poste de T112 et le débitage est un des plus beaux débitages du campement et on peut imaginer que c'est T112, que c'est le tailleur de T112 qui était un très bon tailleur qui aurait taillé cette séquence. Par ailleurs, on constate que toutes les unités ont participé à la construction de L115 en apportant des pierres et des dalles qui ont permis de constituer cet énorme foyer, lequel a été, vous voyez, il est beaucoup plus gros, vous le voyez, que la majorité des foyers. Et en plus, il a fonctionné et il a été récuré à fond. Les pierres viennent donc de toutes les autres unités de résidence. Et en plus, il y a des lames qui ont été apportées. Or, les lames du très beau débitage sont toutes parties dans les autres unités de résidence. Ce qui veut dire qu'il y a une circulation entre ce L115 et les unités de résidence qui nous laisserait supposer que L115 avait un statut qui n'était ni un atelier, ni une habitation, mais plutôt qui avait un rôle symbolique ou cérémoniel. Dans la logique économique, qui veut qu'une famille de chasseurs-cueilleurs, il existe une complémentarité entre les tâches des hommes et des femmes, à certains moments de l'année, il semblerait que la production communautaire transcende la production domestique, ce qui est exactement ce qu'on a à Pincevent, mais que pour ça, pour que ce travail collectif fonctionne, il faut qu'il y ait un maître d'œuvre, que ce travail commun soit orchestré, et nous proposons que celui que nous avons appelé celui qui sait soit ce fameux maître d'œuvre. Ainsi que l'écrivait Alain Testard, comme la richesse matérielle ne joue aucun rôle dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ce sont des sociétés sans inégalité économique. Mais ce ne sont pas des sociétés égalitaires. Je vous remercie. Alors, vous avez là la publication, tout ce que je viens de vous dire sort de cette publication, qui a été une très grosse monographie, mais nous avons aussi un petit livret qui est beaucoup plus illustré, beaucoup plus facile, qui raconte les 50 ans de fouilles à Pincevent avec la présentation des différents niveaux et un résumé de ce que nous avons fait. Il y en a un certain nombre ici, hein, Hélène. Et voilà, ben, je vous remercie de votre attention.
Donc l'allocution a lieu à 3h, ce qui nous laisse 10 petites minutes en fait pour si vous avez des questions sur ce très bel exposé en fait. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont été interpellés par les femmes tailleurs de silex, etc. Enfin, y a certainement des questions qui vont surgir. Donc voilà. Et sur l'organisation de la société.
Ah, voilà. C'est un petit peu notre domaine, mais l'ocre.
Oui.
Il y a de l'ocre rouge sur les sols.
Il y a des zones d'ocre autour des foyers.
Est-ce que c'est de la pollution d'un travail ou est-ce que c'est un essaimage volontaire?
C'est de la pollution. Pour nous, c'est de la pollution. C'est de la pollution, travail.
C'est ça, oui. C'est ça. Il n'y a pas un étalage volontaire d'ocre. C'est ça.
Non.
Comme j'avais cru comprendre.
Non. C'est pas ça. Pour nous, c'est pas. Nous pensons que c'est du travail, c'est de la pollution en raison des travaux qui ont été conduits.
Préparation des bois peut-être pour la colle, pour etc. On ne sait pas trop bien.
Ça, on ne sait pas. Oui. Ça, on n'a aucune possibilité de savoir pourquoi c'était fait. Ça peut être aussi bien des peintures corporelles que des... Ça peut être tout. Ça peut être, théoriquement, dans les pots, on n'a pas besoin de mettre de l'ocre pour conserver les pots.
On n'a pas trouvé, on a trouvé des blocs d'ocre.
On a trouvé des blocs d'ocre, on a trouvé des petits crayons.
Oui, qui venaient peut-être d'ailleurs.
Qui étaient râpés. Ah, mais qu'ils apportaient avec eux, sans
c'est
doute.
Ça, oui, c'est pas au bord de la Seine, non. Comme le silex.
Non. Au bord de la Seine, ils ont trouvé des pyrites de fer pour faire du feu, mais ils n'ont pas trouvé d'or.
On a trouvé donc la pyrite de fer pour faire du feu.
On a trouvé les pyrites de fer, en tout cas.
Dans le campement, les derniers campements.
On a trouvé des pyrites dans le campement.
Et est-ce qu'on a l'idée de pas trouver des briquets en silex? Est-ce qu'on a trouvé des
briquets? On les a interprétés comme des briquets, oui. Mais il n'y a pas de traces dessus. Avec le temps, les
traces au point de vue silex, est-ce qu'on a trouvé un silex? Il y avait des traces de justement.
Non, on n'a pas.
Et alors, au point de vue traces d'usure sur les outils, d'utilisation sur les outils, est-ce que le silex est de bonne qualité?
Non, le silex est très mauvaise qualité. On a essayé, on a tout essayé. On en a très peu. On a quelques traces. On a même essayé à un moment donné sur un des niveaux, mais qui n'est pas celui-là. On a essayé au fur et à mesure qu'on les sortait de les analyser immédiatement, parce qu'ils sortent bleu vif et ils pâlissent très très vite. Voilà. Alors on a eu quelques effets. Il y a un niveau sur lequel le silex est plus frais, mais sur l'ensemble. C'est très difficile.
Et au point de vue bijouterie, au point de vue, il y a eu des coquillages, je crois, percés.
Alors, on a quelques coquillages, on a des petits galets percés. Oui. On en a très peu, on en a beaucoup dans le 4-0, dans l'occupation d'hiver. Oui. Mais là, on en a très peu. Alors, pour moi, l'occupation d'hiver, leur présence s'explique. Bon, d'abord, l'hypothèse habituelle, c'est que comme c'était l'hiver, ils n'avaient pas grand-chose à faire, donc ils bricolaient. Ouais. Et si on en a trouvé beaucoup, c'est qu'il y a une. On est revenu avec cette hypothèse de Sibérie, et ça, pour nous, ça marche. Je n'imagine pas qu'ils ont vécu un hiver sans avoir une litière. Or, cette litière, quand on travaille sur une litière, on perd les choses. Et donc, quand c'est tout petit, et on ne va pas enlever la litière, on l'enlève à la fin. Nous, quand on partait, quand on quittait un campement, on enlevait la litière, on vérifiait qu'on n'avait pas laissé tomber quelque chose. Mais autrement, eux, ils ont dû vivre sur leur litière, et donc il y a plein, toutes les petites choses sont tombées, et donc beaucoup de coquillages. Alors que là, s'ils travaillaient sur des pots, c'était plus facile, en plus les journées étaient plus longues, c'était plus facile à récupérer sans doute. Puis peut-être qu'ils avaient autre chose à faire. Parce qu'il y a 80 rennes, ça représente beaucoup de travail à débiter, à préparer.
Oui. Et surtout s'ils travaillaient les pots en plus.
Il devait y avoir un premier travail des pots, sûrement.
Ça, oui. Votre expérience en Sibérie, ça vous a modifié beaucoup d'idées sur l'interprétation des vestiges de Pincevent, ou c'est un monde différent a posteriori, enfin,
c'est pas un monde différent, c'est un monde ce qui nous a intéressé parce qu'on a travaillé, sur des populations différentes, on a fait différentes expéditions sur dans différents groupes pour essayer justement de comparer, et on a travaillé à différentes saisons. Il y a des contraintes qui nous intéressaient, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui peut relever des contraintes environnementales et du mode de vie, et qu'est-ce qui relevait des traditions culturelles. Alors il y a effectivement des choses qui relèvent des contraintes environnementales, donc ça nous a aidé, comme par exemple la litière. C'est pas possible qu'ils aient pas eu de litière, parce que si vous posez, vous dormez sur la, quand vous étalez votre literie, vous dormez sur la fourrure, donc vous avez la peau qui est contre le sol. Si c'est contre un sol gelé, vous allez faire moisir beaucoup plus vite votre peau, et en plus vous aurez froid beaucoup plus vite. Donc c'est des choses comme ça. Les piquets de tente, le roi Gouron a cherché des calages de piquets pendant des années. Oui. Bon, on n'en a pas. Et or, les tchoums, vous avez les tentes sont raides. Ça, c'est les piquets, les perches sont fabriquées par les hommes. C'est eux qui s'en occupent. Ce sont les femmes qui dressent les tentes et qui préparent les pots. C'est l'affaire des femmes. Et il suffit que les perches soient sèches pour que ça tienne tout seul. Et en plus, vous pouvez soulever, baisser quand vous voulez. Et en plus, l'hiver,
vous ne mettez pas des pierres, vous mettez de la neige, vous bloquez avec de la neige. Donc c'est invisible.
Alors, au point de vue climat, à Passevent, il faisait vraiment froid, moyenne, les pollens.
Alors, le démarrage, ce qu'on a vu, c'est que le démarrage de la migration d'automne démarre avec les premiers froids. Pour nous, quand la migration a démarré, dans les quelques jours qui ont suivi, on a eu les premières neiges. Et à Passevent, on pense qu'ils savaient parfaitement reconnaître ce signal et qu'ils sont venus s'installer donc à un moment où ils commençaient à faire froid. Mais par contre, c'était sec. Le sol montre bien qu'ils n'ont pas pataugé. Donc, ils ont marché sur un sol sec. Et ce que nous pensons, c'est qu'ils sont partis quand la neige a commencé à vraiment tomber. Et du coup, ça a recouvert les vestiges, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de mouvement. Les vestiges n'ont pas été déplacés par les animaux. Et que au printemps, quand la rivière s'est restée enneigée pendant tout l'hiver, et au printemps, quand la Seine a commencé à fondre, il y avait des gros blocs de glace qui sont venus s'encastrer dans le défilé entre le plateau de la Brie et le plateau du Gâtinais, qui ont fait un bouchon qui fait que l'eau a monté très doucement, et au fur et à mesure de la chaleur, ça a fondu, ça a descendu, et ça a déposé très doucement des limons, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de perturbation.
Justement, dans le petit bouquin, il s'est pas très bien exprimé, justement. On a l'impression que la Seine a débordé.
Non, c'est les bouchons. Il y a eu c'est comme ça que Michel Orliac explique le fait qu'il n'y a pas eu de perturbation. Alors, le problème, c'est que quand on chasse un troupeau de rennes migrants, 80 rennes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses à faire. Et donc, manifestement, le poisson, ils l'ont utilisé uniquement parce qu'ils avaient besoin, s'ils en ont eu, de colle. Mais ils ont pas, il n'y a pas de saumon, il n'y a pas de poisson comestible. De la même façon, les quelques lièvres, ils sont tous dans l'habitation M89. Et on pense que là, il devait y avoir... une femme ou un adolescent n'a pas participé à la chasse aux rennes et a lui été chassé, vraisemblablement plutôt les femmes, d'après ce qu'on peut lire, qui a été chassé le lièvre.
Est-ce que vous avez trouvé des techniques de conservation de la viande?
Non, on n'a aucune trace, aucune trace. Mais vous savez, il suffit, mais en Sibérie, vous mettez la viande en plein air sur des piquets et ça sèche tout seul.
Et ça se conserve.
Ah, très bien.
Ça se conserve combien de temps? Ça sèche et alors ça leur donne une réserve de nourriture?
Ça donne une réserve de nourriture pour un certain temps, ce qui n'exclut pas qu'ils l'aient fumé. Mais on n'a pas de trace. Pour sécher? Ils peuvent sûrement. Enfin, oui, ils peuvent tenir. Il faut savoir, en plus, pendant l'hiver, ils vont chasser. Alors, à Passevent, pendant l'hiver, ils ont chassé le cheval et un peu de renne. C'est-à-dire que là, vous avez le passage de la migration. Après, vous avez des bêtes isolées. Il y a toujours une bête qui traîne, qui reste. Donc, ils vont chasser des animaux isolés. Et donc, l'apport de viande, l'apport en protéines, sera beaucoup plus ponctuel. Alors, le cheval, c'est gros, ça peut durer un certain temps. Mais ce n'est pas un troupeau où vous pouvez abattre plusieurs animaux en même temps. C'est complètement différent. C'est des chasses individuelles, il faut traquer les animaux, il faut marcher pendant longtemps. C'est beaucoup plus compliqué. Et cet apport va venir en complément de la viande qu'ils ont amassée et qu'ils gardent. Et après, ils gèrent en fonction de ça. Ils gèrent la consommation de nourriture, mais il y a peut-être des moments où ils ont eu un peu faim. Mais je peux pas. C'est très difficile de vous dire. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'ils ont consommé sur place tout ce qui se gardait difficilement, le sang, les abats, les choses qui sont plus difficiles à garder, qu'ils ont gardé la viande, en sachant que aujourd'hui en Sibérie, si on vous offre un gigot, c'est qu'on ne vous respecte pas. Parce qu'un gigot, c'est pas gras. Ce qui est important, c'est de la viande avec de la graisse. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui vous permettra de résister au froid. Et donc, il y a sans doute toute une fabrication de graisse pour pouvoir résister au froid et préparation de morceaux de viande qui étaient séchés. Mais je vous dis, on les met sur des trépieds. J'ai des photos, là, j'en ai pas mis, mais j'ai des photos de viande sur des trépieds. C'est au grand air et ça sèche.
Et ces trépieds sont prêts de septembre de l'homme qui est important.
Ah non, à Pincevent, on n'a pas de trace de trépied. Il n'y a aucune trace au sol de piquet ou de quoi que ce soit. Là, les trépieds dont je vous parle, c'est en Sibérie. Ils sont toujours à... Non, absolument pas. Mais elles devaient être sur des trépieds parce qu'il faut qu'elles soient en plein air. Même en Sibérie, en plus, il y a les chiens. Mais même là, pour qu'elles sèchent vraiment bien, c'est mieux qu'elles soient suspendues. C'est comme le poisson. En Sibérie, aujourd'hui, le poisson, il est coupé en deux et posé sur des trépieds pour sécher en plein air. Pardon, j'ai pas entendu votre question.
Les recherches ont trouvé des choses sur le site.
Oui, le site continue à être cité.
Et ensuite, on sort des choses. Oui, il y a le niveau K0, le niveau de l'hiver. Là, ils viennent de terminer d'enfouiller une partie. Il y a eu une première publication. Là, ils vont faire une seconde publication. Parce que c'est un ensemble assez qui se tient. Et encore, il y a toute une partie. Sur les 23 niveaux, on connaît le 80 sur 4500 m2, mais sur les autres, il y en a, on connaît sur 3 mètres. Il y a toutes les tailles de la ville. Donc il y a encore une chose.
Il y a encore pour 50 ans de fruits à 15 ans, on ne sait pas trop.
Je ne sais pas. Je ne suis plus là.
De l'origine des silex exogènes qui peuvent être importés dans la sacoche.
Alors,
on arrive à commencer à
trouver. Dans quelques instants, on rentre la gueule de l'allocution de Nathalie Arthaud.
Oui.
Ça ne vient pas très loin.
Non, pas très loin.
On retrouve les mêmes à Verdori, l'Andoise. Et puis, il y en a
une cinquantaine
de kilomètres de
plateau. Oui, pas plus, bien sûr, c'est un territoire. Mais quand même.
Il y a trois ou quatre qui sont déjà là, qui sont encadrés, et ils sont mieux arrivés là.
Ils ne
chargeaient
pas.
Non.
Merci.